Et nous vous retrouvons, Philippe Lançon, vous venez de publier Le Lambeau aux éditions Gallimard. C'est un livre dans lequel vous racontez vos souvenirs, la manière dont vous avez reconstruit ces souvenirs après l'attentat contre Charlie Hebdo. Et je vais lire d'ailleurs un extrait de votre livre. Le 7 janvier 2015, vers 10h30, il n'y avait pas grand monde en France pour être Charlie. L'époque avait changé et nous n'y pouvions rien. Le journal n'avait plus d'importance que pour quelques fidèles, pour les islamistes et pour toutes sortes d'ennemis plus ou moins civilisés, allant des gamins de banlieue qui ne lisaient pas aux amis perpétuels des damnés de la terre qui le qualifiaient volontiers de raciste. Un journal qui était en quelque sorte hors du temps, ou en tout cas pas de son temps.
Oui, et puis surtout qui était en train de mourir. Donc voilà. Mais le paradoxe, c'est que les tueurs, en liquidant les hommes, on fait en sorte, malgré eux, que le journal a revécu. Voilà, il y a un paradoxe absolument atroce. Mais effectivement, à ce moment-là, nous avions absolument conscience du fait que on était un petit journal qui n'avait plus beaucoup de lecteurs, ou plus assez en tout cas, qui campait sur des idées, des valeurs et des formes d'expression qui n'était plus très bien perçu, en particulier ce second degré extrêmement agressif propre au dessin de caricature, qui est l'esprit de Charlie, qui arrivait des années 70, hein, et même 60, si on va plus loin, de la guerre d'Algérie, en somme. Donc c'était un paradoxe de traiter, comme on l'a souvent entendu, de plus ou moins de racistes, plus ou moins ouvertement, un journal dont les langes avaient été fondées sur, au moment de la guerre d'Algérie, évidemment contre ce qui se passait là-bas. Et nous avions conscience de ça. Et donc le paradoxe, c'est que, pour autant que je m'en souvienne, les deux, trois dernières années étaient extrêmement libres, puisqu'en fait, on sentait ça, on en parlait, hein, c'est pas une vue de l'esprit que j'ai maintenant. Et donc, on faisait ce qu'on pouvait, puisqu'on savait aussi qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Hein, la vie d'un homme, d'un journaliste, d'un écrivain, c'est de faire ce qu'il sait faire. Il peut évidemment évoluer, se changer, mais on va pas demander à des gens dont le métier, puisque c'est l'identité de Charlie avant tout, même s'il y a des écrivains dedans, de faire des dessins de presse, fondé sur un certain nombre d'idées et de formes, de ne plus le faire parce que c'est plus à la mode, voyez, c'est, ou alors il fallait fermer Charlie. Donc on le savait tout ça et on en parlait avec, je verrai toujours, le sourire de Charb, qui était un sourire intelligent. Il savait tout ça.
Vous avez publié en début d'année un texte où vous expliquiez ce que suscitait en vous l'expression « Je suis Charlie, Philippe Lançon », avec, dites-vous, « Je suis Charlie » puisque j'y publie chaque semaine, mais malgré tout, vous émettiez des réserves sur l'utilisation qui était faite, qui est faite aujourd'hui de cette expression.
Oui, mais les réserves étaient des deux côtés, c'est-à-dire à la fois de ceux qui l'utilisaient, parce que simplement, je pense que c'est aussi un caractère qui est le mien, qui est que je n'aime pas me retrouver enrégimenté sous un slogan, quel qu'il soit. Mais aussi, donc, il y avait ceux qui disaient, voilà, je suis Charlie, ça porte un certain nombre de choses. Et d'autre part, ceux qui utilisaient ce slogan pour le retourner en disant, vous voyez, ceux qui disent je suis Charlie sont des gens qui n'ont pas conscience de ce qui se passe dans les banlieues, qui sont plus ou moins racistes, ou qui sont islamophobes, ou je ne sais quoi. Et donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que faut vraiment se méfier de ces étiquettes, et surtout essayer d'en sortir quand, visiblement, elles deviennent d'une telle intensité politique qu'elles ne peuvent plus être sujets qu'à polémique. Vous voyez ? Et une chose qui est très importante pour moi, en particulier depuis l'attentat et ce que j'ai vécu après, c'est plutôt d'essayer de prendre les choses avec à la fois civilité et ironie.
C'est-à-dire
essayer de faire en sorte de... à la fois d'écouter ce qui se dit en face quand on n'est pas d'accord, et en même temps, tout en ayant ses idées, de ne pas faire ce que font, je trouve, de plus en plus de gens dans cette société, pour des raisons d'ailleurs compréhensibles, jeter en permanence de l'huile sur le feu, vous voyez ? C'est-à-dire ajouter sa propre volonté de polémique à la polémique ambiante. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est très perceptible dans tous les domaines. Et je pense que c'est quelque chose de cet ordre aussi qui me faisait faire un pas en arrière par rapport au slogan. Vous voyez, pour le reste, évidemment, je suis Charlie. Et d'ailleurs, je l'écrivais, si je me souviens bien, dans cette chronique.
Absolument.
Comment pourrais-je ne pas l'être? Vous voyez, enfin, il n'y a là-dessus aucun doute. Mais je ne le suis pas au sens polémique.
Il y a eu beaucoup de polémiques justement après l'attentat, je veux dire des polémiques sur Charlie, et une attitude de certains journalistes aussi pour expliquer à quel point le journal allait mal et à quel point aussi sur des sujets qui sont toujours parus subalternes, à quel point donc il y avait des dissensions au sein de l'équipe.
Eh oui, comment y aurait-il pu ne pas en avoir ? Peut-on imaginer, vous êtes ici à France Culture ? Mais chacun demande à chaque auditeur de faire l'effort d'y penser, un effort d'imagination. Et vous êtes dans l'endroit où vous travaillez, et en 2 minutes 30, la moitié des gens de l'endroit où vous travaillez sont liquidés dans des conditions absolument épouvantables, de balles dans la tête. Et parmi eux, évidemment, ceux qui sont les plus symboliques et les plus talentueux de ce journal, voire, comme Cabu, des génies du dessin. Comment pouvez-vous penser que les gens vont réagir à ça ? Comment vous réagiriez à ça ? C'est-à-dire, comment vous faites avec ça pour continuer à faire un journal ou recommencer à le faire avec des gens autour de vous qui sont ou détruits, ou culpabilisés, ou blessés, voyez ? Donc, qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des conflits, que les gens ne sachent plus où ils en sont, rien n'est plus normal. Et ce qui est très frappant dans ces cas-là, c'est comment de l'extérieur, on applique des sortes de grilles morales sur ce qu'il faudrait faire, ne pas faire, dire, ne pas dire, comme si on était dans une sorte de salon bourgeois et pas dans un endroit où la moitié des gens ont été massacrés. Donc la morale, c'est très bien, mais ça a des limites. C'est-à-dire qu'elle s'a... elle doit toujours s'établir, à mon avis, en contexte par rapport à ce qui s'est passé. Et en fait, en plus, il ne s'est rien passé de particulièrement terrible à Charlie après. C'est-à-dire, simplement, c'était des gens blessés, mutilés, traumatisés, très culpabilisés pour certains d'entre eux, parce que c'est la culpabilité des survivants, etc. Enfin, moi, je ne suis pas psychologue, mais je connais ça, j'ai vu ça. Et donc, voilà, les gens devaient vivre et continuer à vivre avec ça, et continuer à faire un journal avec ça, voilà.
D'ailleurs, vous rappelez l'époque où vous étiez reporter de guerre, où vous étiez à Bagdad, et vous... tisser un fil, ou plus exactement, vous repérez un fil entre ce que vous avez vu à Bagdad et ce qui est arrivé le 7 janvier, Philippe Lançon.
C'est-à-dire, tout ça n'est vu qu'à travers exclusivement mon propre prisme. Il n'y a pas de généralité dans ce livre, et j'essaie de ne pas trop en avoir quand j'en parle. C'est-à-dire, effectivement, j'étais à Bagdad, reporter de guerre, je ne l'ai pas été très longtemps, hein, ça ne devait pas être tout à fait mon genre. Et la guerre à Bagdad en 90, la crise du Golfe puis la guerre du Golfe, était une guerre à ce moment-là, hein, qui était sans rapport dans la violence avec ce qui s'est passé ensuite. Mais effectivement, c'est à ce moment-là qu'il s'est passé une série de choses. La première, c'est l'extrême médiatisation. C'est-à-dire, c'est là vraiment que moi, je me souviens, j'étais déjà un journaliste qui avait 5 ans de métier et qui avait été beaucoup reporter, comme beaucoup de jeunes journalistes. Et tout à coup, on basculait dans un monde où le journaliste, et en particulier le journaliste de télé, devenait une star. Donc devenait un acteur propre de l'événement. Et ça, c'était très nouveau pour moi, et pas que pour moi. Je me souviens, c'était quelque chose de spectaculaire. Ensuite, cette mise dans le panoptique télévisuel, et l'Internet n'existait pas encore, mais vous voyez, de l'événement dont les gens allaient souffrir, en l'occurrence pour ce que des Irakiens qui allaient se prendre les bombes, et puis qui allaient vivre l'enfer qui s'ouvrait à ce moment-là. Et effectivement, quand on y pense... Une chose qui très probablement, politiquement, avait commencé du temps de l'Iran et de l'Ayatollah Khomeini, cette espèce de mondialisation de la terreur, quoi, et de, à travers la fatwa contre Salman Rushdie. Là, il s'est passé autre chose, c'est-à-dire que l'Irak est devenu l'épicentre d'un phénomène qui s'est répandu par la suite et qui a commencé là. Et qui a probablement commencé là, à ce moment-là. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue. Et quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, ben voilà, t'étais là à ce moment-là, t'as vu un certain nombre de choses se mettre en place. Évidemment, certaines, j'en avais conscience, d'autres pas. On était encore très insouciants à ce moment-là, vous savez. En 90, en tout cas, quand je dis « on », c'était les reporters et donc les gens de ma génération qui étaient là-bas. On était jeunes, on n'avait pas connu la guerre. Et tout nous semblait quand même, l'impression que j'ai, c'est difficile de parler pour les autres. En tout cas, tout me semblait un peu un théâtre. Et c'est aussi ce que j'ai voulu restituer dans la manière dont j'ai raconté ces expériences à Bagdad.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a, on a parfois l'impression, en lisant votre livre, Philippe Lançon, qu'il est organisé comme s'il y avait finalement un aboutissement logique, un aboutissement au 7 janvier au travers d'un certain nombre de choses qu'on aurait pu prévoir si on les avait vues, si on avait voulu les voir, s'il y avait eu une solidarité peut-être aussi avant autour de Charlie.
Oui, mais si je l'avais dit comme ça, ce serait un essai et à mon avis, ça ne serait pas très intéressant. Donc, alors, je ne sais pas si ce que j'ai fait est intéressant, mais c'est simplement une histoire que je raconte. C'est l'histoire d'un homme qui a été pris dans une série d'événements et à des positions heureusement ou malheureusement privilégiées depuis Bagdad jusqu'à l'attentat et qui essaie de simplement, non pas de penser, mais en tout cas, si je le pense, c'est à travers la manière dont je le raconte, c'est-à-dire de raconter une histoire dont le seul lien finalement, en l'occurrence, est ma propre vie, mais prise dans l'histoire et dans le siècle, vous voyez, et modestement. Mais c'est cette vie-là, et c'est de ça dont je peux parler, et de rien d'autre.
Mais oui, le problème, c'est qu'en fait, d'ailleurs, vous l'écrivez, ma vie ne m'a plus appartenu, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que votre livre est le livre qui résume ce que tous les Français ont vécu à un moment ou à un autre, au travers de l'attentat contre Charlie, parce que finalement, c'est ça aussi qui est un peu mystérieux. C'est un journal que vous décrivez comme étant presque mort et fauché juste avant l'attentat, qui aujourd'hui signifie, voilà, je vois dans les couloirs de France Culture des gens émus qui vous voient. Quelle sensation ça vous fait, Philippe Lançon ?
Eh bien oui, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que les tueurs ont redonné vie, une vie symbolique très forte et presque extravagante même au journal.
Mais là, je parlais de vous, de Philippe Lançon.
Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai écrit parce que je ne sais pas exactement quoi penser. Vous voyez, c'est-à-dire, on écrit aussi pour... on écrit d'une part, enfin, moi, j'écris pour retrouver des choses. Et puis, d'autre part, pour essayer d'en trouver, c'est-à-dire de comprendre un tout petit peu ce qui m'est arrivé et ce qu'il nous est arrivé, vous, moi, ceux qui nous écoutent, à travers cette histoire, voyez. Donc c'est une entreprise très modeste, vous savez, d'écrire dans ces cas-là. C'est-à-dire on est vraiment comme dans une grotte. Il y a des traces sur les murs et puis on s'enfonce dans la grotte et je m'enfonçais dans la grotte et j'essayais de non pas forcément parce que j'en ai pas les compétences de comprendre le sens de ces traces, mais de les décrire déjà, voyez, et de donner sens à, de faire récit avec ce qu'elle me montrait, effectivement, qui étaient des traces qui en même temps étaient en moi. Cette grotte, elle est en moi. Donc, voyez, mais pour revenir à l'histoire de Charlie proprement dit, oui, ben effectivement, la réaction qu'il y a eu à l'attentat. Quand même, les millions de gens qui étaient dans la rue le 11 janvier. Les réactions que ce livre semble provoquer quand même aussi montrent que ce journal qui était effectivement oublié, mais vous savez, comme un vieil oncle qui est à table, qu'on voit toujours, et puis on l'écoute plus trop, et vous voyez, il est là, bon, il parle, il rabâche toujours les mêmes choses, ces mêmes dessins, ces mêmes blagues, etc. Donc on l'écoute plus. Et puis finalement, si un jour il se fait renverser par une voiture, voire tirer dessus dans la rue, tout à coup, pour les autres, c'est quand même un petit effondrement. Parce qu'il avait sa place. Et il avait sa place non seulement dans la société française contemporaine, même si elle ne le savait plus, mais dans l'histoire de ce pays, qui est une histoire liée à une tradition de la caricature, de la polémique, vous voyez, des choses, comme je vous ai dit, qui ne me sont pas consubstantielles. Je ne suis pas un grand polémiste, vous voyez, j'ai un peu de mal avec ça. Et je me suis soigné aussi en étant à Charlie depuis 15 ans. Vous voyez, c'est bien d'être dans des endroits qui ne sont pas tout à fait forcément votre genre, puisqu'on y apprend des choses, on y est au contact. Moi, j'étais journaliste et j'y étais au contact avec ces amis qui sont morts et qui m'ont beaucoup appris par ce qu'ils étaient, c'est-à-dire justement pas des journalistes au sens propre, mais des artistes, des dessinateurs, des polémistes, des gens qui prenaient la réalité d'une autre façon que moi. Et c'était très bien de travailler avec eux. Et c'est encore très bien de travailler avec ceux qui leur succèdent. Vous voyez, de les lire chaque semaine, de voir, tiens, comment eux, ils prennent ça.
Avec également le rôle de la littérature, vous expliquez comment la musique, Bach, comment Thomas Mann, La Montagne Magique, comment tout cela vous a aidé à vivre, comment vous avez pu reprendre pied quelques jours après. Au début, vous dites que bon, vous étiez incapable de le dire. Et puis, progressivement, vous expliquez comment vous avez réussi à ouvrir à nouveau un livre, ouvrir Thomas Mann, par exemple.
Oui, si on prend Thomas Mann, mais ça pourrait être le cas avec Kafka, qui m'a régulièrement accompagné au bloc. Thomas Mann, c'est un livre que j'ai demandé. En fait, je n'arrivais pas à lire La Montagne Magique avant l'attentat. Et donc après, dans la chambre d'hôpital, je vous mentirais si je disais qu'à ce moment-là, je l'ai lu entièrement. Je l'ai lu entièrement plus tard. Mais en revanche, que je lisais de La Montagne Magique, je le mâchais comme un Éthiopien ou un Somalien mâcherait du cat, vous voyez, c'est-à-dire très très longuement. Et c'était comme quelque chose que je m'assimilais très très progressivement, très lentement. D'abord, pour des raisons physiques, je ne pouvais pas lire longtemps. J'avais mal aux yeux. Pendant un long moment, j'avais vraiment du mal à lire, quoi, parce que j'étais très fatigué. Les médicaments devaient y être pour quelque chose, les blocs successifs, etc. Et en même temps, c'est intéressant sur la question de la littérature, parce que c'est intéressant la littérature si c'est sous une forme ou une autre, peu importe que ce soit de la fiction ou pas de la fiction, c'est quand la réalité vous rentre dedans sous des formes très particulières qui vous, littéralement, vous saturent. Et j'ai fait à l'hôpital, peut-être beaucoup plus qu'en tant que critique littéraire, et en tout cas pas du tout de la même façon, cette expérience de la saturation. Mais c'est très intéressant. Ce qui m'intéresse moi maintenant, c'est de penser que je l'ai fait en particulier avec ces deux auteurs, Mann et Kafka, qui m'avaient toujours posé des problèmes avant. Je les lisais, mais j'avais toujours du mal. Par exemple, si on prend Kafka, je me souviens que j'ai jamais pu finir Le Château, qui produisait en moi une sensation profonde d'écœurement. Cet homme qui s'approche d'un château dans lequel il ne peut jamais rentrer, il ne peut jamais. Et c'est quelque chose qui me donnait presque une nausée physique. Et en fait, à l'hôpital, en lisant les lettres à Milena de Kafka, puisque c'était ça qui m'était arrivé par hasard, offert par une amie, à un moment où elle est arrivée, j'étais au bloc, elle m'a laissé le livre. Et j'ai commencé à lire, et ça correspondait aussi il y avait une raison physique, c'est-à-dire que c'était des lettres, donc c'était facile et court à lire. Facile, non, parce que Kafka n'est jamais très facile à lire. Mais c'était court. Et je pouvais, ils pouvaient me suivre au bloc. Et Kafka, c'était, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je lisais ces phrases incroyables sur les marmites de l'enfer. Et en même temps, à un moment donné, quand j'avais accès à une phrase, à force de l'avoir mâchée, là, comme du cat, littéralement, elle m'envahissait. Et c'était le sens de ce que je lisais devenait physique et mental, tout à la fois. Et là, on n'était plus du tout dans la culture ou l'intellect, vous voyez, des choses comme ça. Enfin, on y était aussi, bien sûr, mais on était dans quelque chose de beaucoup plus vital. Et j'en reviens à ce que je vous disais au tout début de cet entretien, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est la vie, c'est-à-dire quelle forme on va trouver, quand on est écrivain, pour faire sentir la vie. Et là, donc la restituer dans toutes ses dimensions et le plus possible, et le plus intensément possible. Et chacun bricole comme il peut, hein, dans ces cas-là. Donc évidemment, je ne vais pas me comparer à Kafka ou à Mann, mais disons que eux, dans ces cas-là, ont été d'utiles ouvriers pour me permettre de faire ma propre expérience.
Je ne sais pas bien qui il faut vous comparer. Lorsque je vous ai lu, j'ai eu des idées. C'est pas Primo Levi, enfin chacun puise dans ses références, mais en tout cas, votre livre Le Lambeau appartient à la littérature du désastre, à une forme de dommage rendu à des formes de catastrophe et les catastrophes en littérature, on voit à quoi elles renvoient.
Ben, moi, je peux pas. Vous voyez, je ne peux pas classer ni étiqueter mon livre et il m'est très difficile de le qualifier. Enfin, vous parlez de Primo Levi. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire, c'est très compliqué parce que il y a des lecteurs qui m'ont écrit qu'ils allaient le ranger effectivement à côté de Primo Levi, mon livre. Pour moi, c'est à la fois incroyable et presque inimaginable, parce que quand j'ai lu Primo Levi, je pense autour de 20 ans, c'est un auteur qui a été lui aussi tellement important pour moi, et pas que si c'est un homme. J'ai à peu près tout lu, je crois, en français, hein, je lis pas l'italien, et que sa simplicité, sa fausse simplicité, la manière dont justement il fait entrer Dante dans la nature même du récit qu'il fait, pour mémoire. Tout ça est quelque chose qui m'a profondément marqué, sans que je puisse véritablement, à l'époque où je l'ai lu, j'étais bien loin d'être critique littéraire ou quoi que ce soit, et d'ailleurs je ne crois pas avoir jamais écrit un seul article sur Primo Levi, m'ont énormément marqué. Et donc effectivement, pour moi c'est quand même, et pas que pour moi, pour beaucoup de gens qui nous écoutent, un monument. On ne peut pas se ranger à côté d'un monument comme ça. On peut espérer vivre un peu enfin à l'ombre, j'en sais rien, mais en tout cas de toute façon on ne peut pas comparer. C'est-à-dire, je lisais il n'y a pas longtemps les œuvres de Mandelstam, là pour un travail critique, et il disait le péché capital, oui, le poète russe, et qui disait il ne le disait pas comme ça, mais en gros il disait le péché capital c'est de comparer, tu ne compareras pas. Chose que le critique, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, passe son temps à faire. Et donc, on ne peut pas se comparer à, non seulement à des auteurs comme ça, mais surtout à des auteurs qu'on a si profondément assimilés, parce qu'ils font partie quasiment des souvenirs d'enfance et de jeunesse. Et donc, on ne fait pas entrer son propre livre dans ses souvenirs au moment où on l'a écrit. Vous voyez, c'est pas du même ordre.
Je ne sais pas effectivement à quoi tient la comparaison et en tout cas quel est son statut dans ce contexte-là. Ce qui est certain, c'est que cette histoire, l'histoire de Charlie, c'est aussi une histoire de l'irruption du tragique dans un lieu qui a priori n'a rien d'un lieu méchant. C'était des gens qui faisaient des dessins, qui étaient pour la plupart très doux, et il y a quelque chose de tellement absurde dans cette histoire-là.
Oui, ben c'est absurde, mais c'est la réalité, c'est ce qui a eu lieu. Alors après, c'est des historiens, des philosophes qui diront, ou des hommes politiques qui le disent, je crois comme notre président, le retour de l'histoire ou du tragique, etc. Tout ça, c'est des grands mots.
Le président, il ne parle pas beaucoup de Charlie.
Non, mais il parle du retour du tragique il n'y a pas longtemps.
J'ai vu ça, dans la NRF.
Enfin bon, tout ça, c'est des mots. C'est-à-dire, il se trouve que moi, c'est une chose que j'ai vécue. Donc, effectivement, l'irruption de tueurs armés de Kalachnikov entre Bastille et République, et qui ont liquidé l'essentiel des gens qui se trouvaient dans la salle de rédaction où j'étais. Et j'en suis sorti par hasard et par miracle, comme on voudra. Quel est le sens de tout ça? C'est très compliqué à donner. Vous voyez, c'est ce que je peux dire par rapport à ce que moi j'ai écrit, c'est qu'il se trouve que le hasard a voulu que la veille j'étais au théâtre. Et je pense que si le théâtre est la forme théâtrale presque est présente dans ce livre d'un bout à l'autre, y compris dans la chambre d'hôpital, c'est aussi parce qu'il permet de mettre à distance les choses vécues en en restituant ce que vous disiez, c'est-à-dire l'absurde, mais la réalité par l'absurde, par le comique, qui est très présente. J'espère que les lecteurs y seront sensibles. L'attentat, non, mais ce qui précède à Bagdad, c'est souvent drôle, je pense, et c'est une scène de théâtre. Et ce qui suit dans la chambre d'hôpital et dans le bloc, il y a beaucoup de scènes que j'ai vécues. Et j'ai vécu au moment où, parce que ce que je raconte, j'essaie à chaque fois de me replonger dans l'état où j'étais quand je l'ai écrit, au moment où je l'ai vécu. Et donc, le comique était très présent. Vous voyez, on ne peut pas séparer les choses. C'est encore une fois, je finirai par là, c'est la vie. C'est-à-dire, elle fait pas de morale, la vie. Et il n'y a pas elle fait pas de registre non plus. Donc la question quand on écrit, en tout cas moi quand j'écris sur un événement comme ça, c'est comment restituer tous les registres et comment donner une fluidité à tout ça pour que la vie coule.
Philippe Plançon, Le Lambeau, c'est publié aux éditions Gallimard.